La Bible appelle souvent Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Abraham, nous le connaissons bien pour sa foi. Par sa foi, il saisit la bénédiction de Dieu et devient bénédiction. Jacob est bien connu pour sa force dans la prière. Et puis, il deviendra le père des 12 tribus d'Israël. Par contre, on fait malheureusement moins attention à ce dont témoigne Isaac. Alors, c'est vrai que la Bible ne nous en dit presque rien, en fait, bien peu de choses. Et sa vie semble consister à revivre un peu, à sa façon, à sa manière, ce qu'avait vécu déjà avant lui, Abraham, son père. Et pourtant, si la Bible parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que la façon d'être d'Isaac est essentielle, elle aussi, comme le sont la foi d'Abraham et la foi de Jacob. Et ces trois dimensions de la foi sont importantes afin que notre conception de Dieu, mais aussi notre façon de vivre, d'espérer, notre foi, soit enrichie de cette triple dimension. Alors c'est à la recherche du témoignage d'Isaac que je vous propose de partir ce matin. Mais d'abord, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les deux premiers versets où l'on voit cette mise en route d'Abraham, son père. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc bénédiction. » Ensuite, donc, un peu plus loin, dans ce livre de la Genèse, au chapitre 26, je vous propose de suivre, finalement, l'essentiel de ce que l'on nous dit sur la façon d'être d'Isaac. Et Isaac, dans ce passage, après la mort d'Abraham, eh bien, va partir recreuser d'anciens puits. Au chapitre 26, les versets 15 à 33. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et il campa dans la vallée de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il les appela des mêmes noms que son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent alors querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna alors au puits le nom d'Essec, parce qu'on s'était disputé avec lui à ce propos. Les serviteurs creusèrent alors un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa encore un autre puits, pour lequel, enfin, on ne lui chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous pourrons fructifier dans ce pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Abimélec se rendit auprès de lui depuis Guérar, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment, une alliance entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui es maintenant le béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent, puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils se quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Et Isaac l'appela Shibéa, c'est pourquoi on donne à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous lire maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 20, les versets 37 à 39, où Jésus nous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que les morts ressuscitent, nous dit Jésus. C'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il l'appelle le Seigneur, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques scribes répondirent alors, « Maître, tu as bien parlé. » Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, quelques versets où l'on voit le dialogue entre Jésus et Marthe. Marthe qui est dans le deuil de son frère Lazare. Jésus lui parle alors de résurrection, d'une résurrection à vivre aujourd'hui et maintenant. Jean 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. » Au dernier jour, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 42, les quatre premières strophes de ce psaume qui nous invite, comme le cerf qui a soif, de partir à la recherche de l'eau. Psaume 42. Éternel, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras certainement dans ta grande bonté. Tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille, car tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant que l'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Comme Isaac, après la mort de son père Abraham, quand nous sommes dans le deuil d'une personne que l'on aime, nous sommes d'une certaine façon dans un monde où les puits ont été refermés par du sable. Une personne que nous aimions, une personne qui était pour nous une bénédiction de Dieu n'est plus à nos côtés. Et comme le dit avec douleur Isaac ici, il est assoiffé et il ne connaît pas la paix malgré ses efforts pour trouver des sources nouvelles. Face à la perte d'un être que nous aimons, certains cherchent alors à nous aider en parlant de la vie future où Dieu nous consolerait et où l'on retrouverait les personnes que nous avons perdues. Oui, je le pense aussi, Dieu sera une consolation dans la vie future, et puisque l'amour est plus fort que la mort, nous resterons pour toujours avec les personnes que nous aimons, mais la vie future ne nous aide pas tellement à avancer aujourd'hui. Alors ces histoires de résurrection dans la vie future, c'est sans doute ce qu'on dit les bonnes âmes qui étaient venues pour consoler Marthe de la mort de son frère. Et apparemment, cela ne console pas tellement Marthe de la mort de son frère. Et cela n'empêche pas non plus Jésus lui-même de pleurer sur la mort de son ami. Le problème de Marthe, à ce moment-là, c'est de vivre maintenant avec le drame qu'est cette séparation. C'est aujourd'hui que son frère lui manque. Et c'est maintenant qu'elle doit faire face à ce deuil pour vivre. C'est aujourd'hui que la mort doit être vaincue pour elle. Et c'est pourquoi Marthe ne se contente pas de ses promesses de vie future, mais qu'elle va vers Jésus, car elle sent que même maintenant, il est la solution. Et ce que Jésus va lui offrir, c'est que ce soit elle qui ressuscite maintenant, qu'elle ressuscite dans ce jour, alors qu'elle est dans le deuil. Car c'est bien ça que lui répond Jésus. C'est à elle qu'il offre la résurrection et la vie, maintenant, dans cette vie. Alors cela peut sembler bien abstrait, cette idée de ressusciter dans la vie présente, aujourd'hui et maintenant, par le Christ. Mais c'est au contraire quelque chose de très concret, et l'histoire d'Isaac peut nous aider à le saisir, non seulement à le comprendre, mais à en vivre. Isaac, dans cette histoire, nous invite à creuser à nouveau les puits enfouis, à redécouvrir la source qui avait été la vie de la personne aimée et disparue, à laisser Dieu ressusciter en nous la bénédiction qu'a été et que peut être encore réellement une personne que nous aimons. Quand nous sommes ainsi desséchés, ce n'est pas que Dieu aurait retiré sa bénédiction, son eau, l'eau de sa bénédiction est encore là, au plus profond de nous, disponible. Mais un ennemi a comme bouché les puits qui nous donneraient accès à cette eau. Et nous avons perdu ainsi le bonheur et la vie, finalement. N'importe quelle sorte de philistin a pu boucher ce puits. La perte d'une personne qui nous était indispensable fait lever bien des sentiments, bien des idées qui nous font la guerre et qui assèchent notre vie, un peu comme ces Philistins qui font la vie dure à Isaac. Ces Philistins, ça peut être pour nous une sorte de désespoir, ça peut être aussi une révolte contre l'injustice ou l'absurdité de cette mort, ça peut être aussi un sentiment de culpabilité, qu'il soit fondé ou non. Ça peut être mille choses encore, mais qu'importe. Sous le sable, il y a et il y aura toujours la source de notre être et de la joie de vivre. Notre Dieu ne nous abandonne pas. C'est en nous qu'est le désert et c'est en nous que ces puits peuvent être creusés. C'est en nous que la résurrection, la vie peuvent être reçues maintenant. Abraham nous invite à boire directement à cette source qu'est Dieu. Il incarne la foi rayonnante, la foi vivante, et par la foi, il deviendra lui-même une bénédiction pour de multiples générations, comme le dit la Bible et comme nous en témoignons encore aujourd'hui. Et en chaque être humain, il y a un enfant de cet Abraham-là, une personne qui est bénie par Dieu pour être, à sa façon, une bénédiction pour les autres. Mais dans ce récit que nous suivons aujourd'hui, Abraham est mort et la vie d'Isaac est faite de désert et d'injustes combats. Mais si Abraham ne revient pas sur terre pour accompagner de nouveau Isaac, la source de la bénédiction qu'est Abraham reste bien vivante pour lui. Les puits pourront être recreusés, l'eau pourra être retrouver. Isaac nous invite ainsi à la fidélité et à la louange à Dieu. Il nous invite à nous souvenir et à partir à la recherche des anciens puits ouverts par Abraham, à les recreuser, puis à boire ne serait-ce qu'encore une gorgée de leur source et à leur donner le nom, leur donner le sens que leur avait donné Abraham lui-même. Dans cet élan de fidélité, Isaac pourra vivre, il pourra transmettre la bénédiction donnée par Dieu à Abraham son père, bénédiction qui va se transmettre de génération en génération pour donner la vie. Isaac apprendra aussi à creuser lui-même ses propres puits et découvrir des sources nouvelles, de vraies bonnes sources, et donc être à son tour lui-même béni et bénédiction pour les autres. Et ainsi, nous voyons dans cette histoire qu'Abraham reste toujours une bénédiction vivante pour son fils, alors même que son corps est mort. Recreuser les anciennes sources de bénédiction pour vivre maintenant, recreuser les anciennes sources de bénédiction des générations passées, cette fidélité est essentielle dans tous les domaines, dans les domaines de la culture, de l'art, de la théologie, mais je crois qu'elle est particulièrement essentielle en ce qui concerne la mémoire de nos proches, de cette bénédiction qu'ils ont été pour nous et qu'ils peuvent être encore. Cette fidélité ne transforme pas Isaac en conservateur de musée, mais il puise, c'est le cas de le dire, dans cette fidélité à Abraham, une énergie créatrice propre pour creuser de nouveaux puits et à persévérer malgré plusieurs échecs dans ce travail de découverte de nouvelles sources. Et quand vient enfin le succès d'avoir pu creuser un puits nouveau dont il peut effectivement profiter, Isaac continuera néanmoins à continuer à chercher encore à rouvrir d'anciens puits d'Abraham. Il reste dans cette fidélité à son père. Il retourne ainsi à Beersheba, cet endroit, ce puits que Abraham avait appelé le puits du serment, un puits qu'Abraham avait creusé et près duquel il avait pu passer un traité de paix important avec Abimélec, un lieu où Abraham a ensuite longtemps séjourné et où il avait coutume de rendre un culte à l'Éternel, l'appelant à cette occasion, la Bible nous le raconte, le Dieu de toujours. Eh bien, Isaac repart de là, de ce lieu de mémoire de son père et de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu là. La première chose qu'il fait finalement, quand il arrive à cet endroit, Beersheba, c'est de construire un autel pour rendre un culte à Dieu, à ce Dieu de toujours, à ce Dieu dont la fidélité est au-dessus du temps, au-dessus des générations, au-dessus de la mort, du temporel, de ce qui passe. Puis Isaac commence à creuser avec son équipe pour retrouver l'ancien puits, l'ancienne bénédiction. Et le récit montre alors que le forage de ce puits et une nouvelle alliance de paix avec Abimélec vont se dérouler en parallèle. Oui, l'Éternel est bien le Dieu de toujours, et la bénédiction donnée à Abraham ne s'arrête pas à la mort de son corps. C'est ce que va pouvoir vivre Isaac, et à son tour, il donnera à ce puits le nom de Beersheba. La bénédiction qu'était Abraham du vivant de son corps n'est donc pas morte avec son corps. Sans doute Abraham est vivant dans l'autre monde, comme le dit Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Abraham, Isaac, Jacob, et puis tous les autres. Mais en ce qui concerne Isaac, qui est vivant en ce monde, le fait qu'Abraham soit vivant ailleurs ou non ne change rien au fait que son père ait physiquement disparu. Isaac ne le voit plus, il ne l'entend plus. Abraham ne creuse plus de puits en ce monde pour donner à boire à son fils, à ses enfants, à ses troupeaux. Et pourtant, Abraham continuera à être une bénédiction vivante pour Isaac, une bénédiction vivante pour les enfants d'Isaac et pour les enfants de leurs enfants et ainsi de génération en génération. Pour cela, il va falloir que le chemin de cette bénédiction soit recreusé par Isaac dans la fidélité et dans la louange. Et c'est finalement ce que dit Jésus à Marthe quand il lui dit que c'est elle qui peut ressusciter maintenant, par la foi. Ce qui est mort en elle, ce qui est souffrant en elle ou inerte en elle, peut passer maintenant de la mort à la vie. Car la bénédiction qui est une personne ne meurt pas avec la mort de son corps. Cette bénédiction peut être enfouie dans le désespoir ou bien enfouie dans la tristesse ou par l'oubli, mais même alors, cette bénédiction n'est qu'enfouie au plus profond de notre être, enfouie comme dans du sable. Et c'est pourquoi, je crois, la louange est si importante. Quand au soir d'une journée, par exemple, nous remercions Dieu pour ce que telle personne nous a apporté, parce que peut-être grâce à elle, nous avons pu avancer et recevoir, je ne sais pas, par exemple, un supplément de foi ou d'espérance, ou peut-être une capacité à aimer un peu plus forte, ou bien la force de pardonner, je ne sais pas, qu'importe. Si quelque chose de nous est un petit peu passé de la mort à la vie grâce à cette personne, eh bien c'est que cette personne a été bénédiction pour nous. Et si cela a été possible, c'est qu'elle était vivante d'une vraie capacité créatrice, quelque chose qui est de l'ordre du divin, du créateur. Et cette dimension-là est éternelle, comme Dieu est éternel. Et donc c'est agréable et juste de ruminer ainsi les bonnes choses qui nous sont arrivées dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année. Mais quand nous y reconnaissons même une bénédiction et que nous remercions Dieu pour cette bénédiction-là que nous avons reçue grâce à cette personne-là, eh bien nous gardons alors cet événement d'une double façon vraiment essentielle pour nous. Non seulement nous avons alors bénéficié d'une bonne chose grâce à cette personne, mais en méditant dessus et en y reconnaissant une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel, nous nous laissons créer par Dieu comme une source à notre tour, une source de bénédiction. Et je crois que c'est ce que nous propose Jésus dans ce célèbre passage où il témoigne de l'essentiel pour ses disciples quelques heures avant d'être arrêté. « Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et ainsi ma joie sera en vous. » Jésus nous propose ainsi une sorte de chaîne d'amour où nous nous saisissons de cet amour dont quelqu'un nous a aimé dans notre journée, amour qui vient de Dieu, que nous en saisissons pour être capables d'aimer à notre tour. Et donc cette louange, cette reconnaissance de la bénédiction qui vient de l'autre est quelque chose de très créateur pour notre être, quelque chose qui nous ressuscite. Et rendre grâce pour la bénédiction qu'a été pour nous une personne, c'est donc l'occasion de nous réjouir et de nous laisser créer par Dieu comme bénédiction nous-mêmes. C'est le premier bénéfice de la louange. Et le second, c'est qu'en faisant ainsi, nous gardons mémoire du lieu de cette bénédiction pour pouvoir y retourner ensuite. C'est ainsi que nous pourrons retrouver ensuite le lieu de cette bénédiction pour pouvoir recreuser quand notre désert sera arrivé peut-être à l'occasion de telle ou telle difficulté. C'est ce que fait Isaac. À Beersheba, il avait avec son père célébré l'Éternel, le Dieu de toujours, pour sa bénédiction qui est une source de paix. Devant le même problème, assoiffé et tourmenté, Isaac se souvient de cette bénédiction passée, de cette bénédiction donnée à Abraham, de cette bénédiction qu'était Abraham. Et il retourne sur le lieu de cette bénédiction d'Abraham et il va pouvoir la recreuser. Alors bien entendu, dans cette démarche, qu'importe le lieu géographique, ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est d'ouvrir notre cœur Et c'est ce qu'Isaac arrivera à faire grâce à la mémoire de son père Abraham, à la mémoire des bénédictions reçues par Abraham, reçues, je dirais, dans cette famille, dans cette vie d'Isaac avec Abraham, dans ce qu'il a été pour Isaac. Ce faisant, Isaac s'ouvre à la fidélité de Dieu, qui ressuscite en lui cette bénédiction pour qu'il puisse en vivre encore aujourd'hui. Cette bénédiction qu'a été et que sera toujours Abraham pour son fils Isaac. Alors c'est ce que l'on voit dans ce récit tel qu'il nous est raconté. Isaac remonta à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, dans les ténèbres de son existence tourmentée. Et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai. » « Je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, ton père, mon serviteur. » Et Isaac bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et il y dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Isaac, nous le voyons encore, rend ici grâce à Dieu. Puis il se met très concrètement au travail à creuser le sol aride avec son équipe. Et puis la paix avec son ennemi semble alors se faire comme par miracle. Et Jésus, dans le passage où il nous propose de nous laisser ainsi créer par l'amour que nous recevons de nos proches, Jésus nous dit que nous recevons en prime cette joie qui est la sienne, cette paix qui l'habite et qui est plus forte que tout. Effectivement, notre corps, notre pensée, notre cœur nous font la guerre suite à la perte d'un être que nous aimons, avec un manque que rien ne peut combler, bien sûr, avec la perte d'un être cher, devant l'injustice ou l'absurde de ce qui est passé, et avec souvent une malheureuse culpabilité. Eh bien, le projet de Dieu n'est pas de nous faire oublier, de nous anesthésier finalement. Mais le projet de Dieu, c'est de nous ressusciter, de nous réconcilier avec notre cœur, avec nos pensées et avec notre vie en ce monde. Et pour cela, il nous aide à redécouvrir la bénédiction qu'est et que sera éternellement pour nous chaque personne que nous aimons. Gloire à toi, Éternel, le Dieu qui est, qui était et qui sera toujours, le Dieu qui est pour toujours la source de la vie. Et béni sois-tu pour tous ceux qui ont été à côté de nous sur nos routes, source de bénédiction. Amen.